l'admire de tout son cœur. Mais il sait des choses gênantes qu'il eût préféré ne pas savoir, des vérités à atténuer. Les erreurs de jeunesse chez François, il faudra au moins les indiquer, sans plus. Mais les taire, il n'en a ni le droit ni le désir, et il ne se le pardonnerait pas. Et puis tout le monde à Assise est au courant de ce que furent les joyeuses années de ce François si récemment monté sur les autels. Tout peut se dire en termes habilement voilés. Cela s'appelle noyer le poisson. Il n'est pas défendu, par exemple, d'affaiblir considérablement la responsabilité du garçon de 18 ans en accusant les méthodes éducatives en vogue. Elles sont tout bonnement scandaleuses, et il est plus que probable que François en aura reçu sa part. La grande coupable, c'est l'époque. Et voici ce que cela donne. La funeste habitude s'est implantée partout, chez ceux qui pourtant sont réputés chrétiens, et la théorie pernicieuse s'est imposée, aussi impérative qu'un édit public, d'élever les enfants dès le berceau dans un excessif laisser-aller et dans la volupté. Ils viennent à peine de naître, commencent à parler et à balbutier. On leur apprend par signes et paroles des choses vraiment honteuses et abominables. Arrive le sevrage, on les entraîne non seulement à dire, mais à faire des choses indécentes. Ils se gardent bien de dire que Pica a suivi la coutume, car c'est le père qui fait l'enfant, mais c'est la mère qui le façonne. Alors, pourquoi nous parle-t-il de ces choses si ce n'est pour insinuer qu'elle a fait comme tout le monde? Quelque chose en nous se révolte à cette idée. On croit entendre une voix de femme qui domine le tumulte de la Révolution, celle de Marie-Antoinette, reine de France, accusée des mêmes turpitudes avec son fils. J'en appelle à toutes les mères. Avec des prémices adroitement travaillées, on obtient à peu près toutes les conclusions qu'on voudra. Frère Thomas sera bien plus à l'aise maintenant, et sa conscience bien plus tranquille pour parler un peu vaguement de ce qu'il appellera les sottises que commettait François dans sa jeunesse. Cependant, 22 ans plus tard, il oubliera ses premières assertions dans la Vita Secunda, où il va tracer un portrait idéal de la mère. Mais telle qu'elle fut écrite avec ce début effarant, la Vita Prima fut donnée au pape, qui, l'ayant lue, se déclara satisfait. Voyons de plus près. Saint-Georges et le dragon. Les parents de François l'envoyèrent à l'école Saint-Georges, tout près des murailles de la ville et à bonne distance déjà de la maison familiale. L'école dépendait de l'église de ce nom, et c'en étaient les chanoines qui enseignaient aux enfants la rhétorique ou l'art de s'exprimer et la morne grammaire. Mais l'enfant, à la tête déjà pleine de rêves, ne semble pas avoir beaucoup appris. Il demeura toujours, selon ses propres paroles, un idiote, c'est-à-dire un ignorant. Et cette ignorance même devait le servir, comme s'il eût voulu laisser dans sa mémoire la place vide afin de n'y loger plus tard que l'Évangile seul. Quoi qu'il en soit, il devenait beaucoup plus attentif quand un vieux chanoine appelé Guido racontait l'histoire de Saint-Georges et du dragon. Sur une des murailles de l'église, une fresque illustrait cet immortel épisode. Elle était pour le narrateur une source d'inspiration. Tous la connaissaient par cœur, cette histoire, parce qu'il y revenait sans cesse, ornant chaque fois son récit de nouveaux détails. C'était l'antique légende du Minotaure, accommodée au goût chrétien. Jour après jour, il fallait au monstre horrifique qui terrorisait le royaume une victime toute fraîche à dévorer. En vain, le roi dépêchait ses plus vaillants chevaliers pour détruire la bête malfaisante. Tous fuyaient tôt ou tard. La jeunesse entière y étant passée, ne restait plus que la fille du roi, qui l'envoya, non sans verser lui-même des larmes, couronne en tête et se lamentant là où l'attendait la bête. Parut alors, c'est ici que les oreilles se dressaient, un magnifique chevalier, beau, jeune, dans une armure resplendissante. Rassurant d'abord la princesse et lui recommandant la patience, il se rua la lance au poing sur l'adversaire dont les lourdes écailles recouvrant le corps faisaient une sorte de chevalier infernal. Pour le jeune François, que de raisons d'écarquiller les yeux.